pourtant demeurons dans cette attitude de recueillement car nous voulons nous préparer à écouter la parole de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous aide à être dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions de cœur. Nous voulons recevoir sa parole comme étant la seule nourriture pour notre âme, le seul moyen de révélation ou le moyen par excellence de sa révélation aux hommes. Alléluia. Que chacun puisse demander simplement au Seigneur de lui parler, qu'il puisse l'aider à se concentrer sur lui, qu'il puisse éloigner de lui toute pensée négative, toute pensée de distraction. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons pris dans la louange et dans l'adoration. Merci Seigneur pour cette capacité que nous avons en toi, et ce par le Saint-Esprit, de nous approcher de toi Seigneur, pour avoir communion avec toi. Je bénis ton Saint-Nom d'esque Seigneur, notre louange et notre adoration est montée vers toi, comme du parfum que tu agrées et comme une offrande digne de toi. Merci pour tout Seigneur. Tu nous as tellement aimés que tu as tout fait pour que nous puissions un jour te rencontrer, pour que nous puissions un jour expérimenter, Seigneur, cette nouvelle vie en toi, et ainsi faire partie de ton royaume, non pas pour un temps, ni un temps des temps, mais plutôt pour l'éternité. Merci pour tout. Après avoir chanté pour toi, après t'avoir exprimé, Seigneur, nos sentiments, quels qu'ils soient, nous nous apprêtons maintenant à te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Seigneur, merci pour ta parole. Elle reste et demeure cette lumière dont nous avons besoin alors que nous poursuivons notre marche vers la gloire. Elle reste, Seigneur, ô Dieu, cette nourriture dont notre âme, notre esprit a besoin. C'est par et au travers de ta parole que tu nous donnes, Seigneur, toutes les ressources dont nous avons besoin pour demeurer fermes dans nos convictions, mais aussi pour demeurer ferme, Seigneur, dans notre foi vis-à-vis de toi. Merci pour tout. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Oint ton serviteur, donne-lui, ô Dieu, de proclamer ta parole avec autorité. Seigneur, que cette parole puisse trouver des esprits bien disposés. Non seulement à la recevoir comme étant une parole venant de ta part, mais aussi donne à ton peuple cette capacité de la mettre en pratique. Bénis ta parole, sanctifie-la, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je voudrais revenir une fois de plus sur le thème de la fois dernière, à savoir la nécessité de proclamer l'évangile du Christ, qui reste et demeure le seul message dont l'homme, quel qu'il soit, dont l'homme a besoin, où qu'il vive, quelle que soit l'époque dans laquelle il se trouve, quelle que soit la partie du monde où il se trouve, eh bien, l'homme a besoin d'entendre ce message de l'Évangile. Et si l'Église de Jésus-Christ ne proclame pas cet Évangile, ne donne pas l'occasion aux gens d'entendre ce message, eh bien, l'Église aura failli à sa mission, qui est donc celle d'être la lumière du monde. Et comment être lumière du monde et ne pas éclairer ceux qui sont dans les ténèbres? Et comment les éclairer lorsque l'Église ne proclame pas Jésus-Christ, celui qui est la lumière du monde? Et quand nous proclamons l'Évangile, mes amis, nous mettons les âmes perdues, nous mettons les coupables, nous mettons toute conscience humaine en contact avec lui, lui le seul sauveur, lui la vie éternelle. La nécessité de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 4, nous lisons ce donc qui avait été dispersé. L'Église est donc confrontée à la persécution. On est en train de traquer les chrétiens, tous ceux qui acceptent Christ comme étant le Messie. Ils sont traqués comme du gibier et ils sont dispersés un peu partout. Et ils partent des lieux en lieu en annonçant la bonne nouvelle, la parole. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie, et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'ils avaient longtemps étonné ou émerveillé par ses procédés magiques, ses sortilèges. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume ou du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec émerveillement, avec étonnement, les grands signes et miracles qui se produisaient. Amen. Gloire au Seigneur. La nécessité de prêcher, de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Sans cet évangile, eh bien, l'homme est privé, mes amis, de la plus grande de bénédiction qui soit, à savoir la présence même de son Créateur. Le verdict de Dieu est sévère, et sa parole est très éloquente par rapport à ça. Tous, absolument tous, ont péché et sont privés de la gloire et de la présence de Dieu. Tous, mes amis, nous avons été conçus dans le péché. Il n'y a personne qui échappe, mes amis, à cette réalité. Tous, nous avons été conçus dans le péché. Tous, nous sommes nés dans le péché. Tous, nous avons mené une vie de péché. Et par conséquent, tous, mes amis, nous sommes privés de la présence et de la gloire du Créateur. Privés non pas seulement dans ce temps-ci, mais aussi privé pour l'éternité. En d'autres mots, l'homme sans Dieu, l'homme qui n'a pas eu l'occasion de se réconcilier avec son Créateur par et au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, cet homme-là, mes amis, qui qu'il soit, eh bien, est privé de la présence de Dieu, déjà ici sur terre, dans le temps, mais aussi s'il lui arrive de passer dans l'éternité, dans l'au-delà, sans avoir eu l'occasion de rencontrer Dieu, eh bien, il sera privé de la même présence, cette fois-ci pour l'éternité. Voyez pourquoi, mes amis, le Seigneur, après avoir prêché, formé ses disciples, ses premiers disciples, ses apôtres, il leur a confié, avant de quitter cette terre et de retourner auprès du Père, il leur a confié ce message, il leur a donné un mandat, il leur a donné une mission, qui est donc celle d'aller dans le monde entier et de prêcher son évangile, alléluia, de prêcher la bonne nouvelle, de dire à tout homme que désormais, quelle que soit la noirceur de son état, désormais, cet homme-là ou cette femme-là peut se réconcilier avec son Créateur et entrer dans une relation tout à fait spéciale qui assure à cet homme, qui assure à cette femme, eh bien, la félicité éternelle, l'évangile. C'est le seul remède à la plus terrible de maladies qui ronge l'existence humaine. Depuis, mes amis, l'introduction du péché dans le monde, eh bien, rien n'a échappé à sa corruption. Depuis, le péché est devenu un problème majeur pour l'humanité, mais aussi pour l'univers. Car la Bible déclare que même l'univers soupire, mes amis, après sa délivrance. Les conséquences du péché ne se sont pas arrêtées seulement au niveau de l'homme. Le péché a fini par polluer, par intoxiquer son environnement. Le péché a fini par corrompre toute la création. C'est pourquoi cette création soupire après la délivrance lorsque le Seigneur reviendra. Alléluia. Lorsqu'il détruira cette création oblitérée par le péché, cette création marquée par le péché, pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où tous ceux qui lui appartiennent vivront pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette terrible maladie, mes amis, aux conséquences temporelles et éternelles, n'a d'autre remède que l'évangile et l'évangile de Jésus-Christ. C'est le seul message, mes amis, dont le monde a besoin d'entendre. C'est le seul message que l'Église devrait proclamer. Or, il se trouve qu'alors que l'Église s'approche du retour de son Seigneur, eh bien, toutes sortes d'esprits séducteurs essayent par tous les moyens de distraire l'Église quant à sa mission, quant à son mandat reçu de la part de son Seigneur, qui consiste donc à proclamer simplement l'évangile du Christ. Car cet évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Cet évangile est le seul moyen pour l'homme d'être délivré, libéré de son esclavage par rapport aux passions de la chair, par rapport aux attraits du monde, son esclavage par rapport aux puissances des ténèbres. Car le diable maintient sa main sur tout homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu. La Bible déclare que le monde entier, l'humanité tout entière, gît dans le mal, gît dans le malin. Nous naissons avec cette incapacité, mes amis, de connaître Dieu, de le servir. Nous naissons en étant déjà atteints de cette terrible et mortelle maladie qu'est le péché. Mais Dieu, dans son amour, mes amis, a tout fait pour que le remède, le seul qui puisse combattre et détruire cette maladie, soit à la portée de tout homme. C'est pourquoi je voudrais, mes amis, par ce message, réveiller nos consciences, pousser chacun de nous à cette mission qui consiste à être des témoins de Christ, des témoins qui parlent, qui partagent et proclament l'Évangile. Ne regardez pas au nombre d'églises qu'il y a dans Kinshasa ou un peu partout à travers toute la République. Ne regardez pas, mes amis, à tous ces lieux de culte qu'il y a un peu partout dans le monde. Car l'ennemi, dans sa ruse et avec son pouvoir de séduction, a fini par ouvrir toutes sortes d'officines religieuses à travers lesquelles il propose des fausses molécules spirituelles. Et les gens partent avec engouement. Les gens courent après toutes ces officines, pensant qu'ils vont y trouver le remède dont ils ont besoin. Mais hélas, au bout d'un certain temps, beaucoup sont déçus. Ou alors, s'ils ne sont pas déçus sur terre et continuent à bercer cette fausse illusion, eh bien, ce n'est que lorsqu'ils passent de l'autre côté qu'ils se rendent compte de l'erreur la plus terrible. Car lorsqu'on passe de l'autre côté, mes amis, on ne peut plus revenir pour reconnaître son erreur et prendre le chemin de la vérité, à savoir Jésus et Jésus seul. Pourquoi? Parce que la mort est un chemin à sens unique. Quand on prend le chemin de la mort, c'est fini. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui a le pouvoir de ramener quelqu'un à la vie. Alléluia. C'est pourquoi si quelqu'un s'en va sans avoir eu l'occasion de se mettre en règle avec Dieu, eh bien, croyez-moi, mes amis, que cela nous plaise ou pas, croyez-moi, la personne est perdue pour l'éternité. C'est pourquoi nous devons annoncer cet évangile. C'est pourquoi nous devrions commencer à proclamer ce message dans nos familles, tout autour de nous, mes amis. Ça devrait être une priorité. C'est pourquoi nous devrions annoncer cet évangile dans nos quartiers, cet évangile dans notre ville de Kinshasa. Dire aux gens qui n'ont pas besoin de courir après un saint, qui n'ont pas besoin de courir après un ange, après tel ou tel autre apôtre, mais que Jésus est là, le seul qui puisse le sauver, les affranchir. Gloire au Seigneur. Philippe avait compris que les Samaritains avaient besoin de cet évangile. Il n'est pas parti avec une nouvelle pratique religieuse. Il n'est pas parti avec une nouvelle philosophie de vie. Il n'est pas parti avec une nouvelle religion, mes amis. Il est parti avec une personne, Jésus de Nazareth. Alléluia. Celui qui leur avait dit, voici, je suis avec vous
jusqu'à la fin des temps. Jésus est dans sa parole. Lorsque nous sommes avec lui, croyons, mes amis, soyons sûrs qu'il est avec nous. Et s'il est avec nous, alors partons avec assurance. Annoncez l'évangile tout autour de nous. Que les gens le reçoivent ou pas, eh bien, c'est le seul message qui les jugera. Gloire à Dieu. Il y en a qui rejettent, c'est vrai. Voyez? À cause de toutes sortes de... qui font la confusion entre certaines formes du christianisme qui ont commis pas mal de dégâts dans l'histoire, et ces gens font la confusion entre la religion dite chrétienne et la personne du Christ. Et voyant ce qui se passe autour, dans notre monde, ou ce qui s'est passé dans le passé, par rapport à toutes ces grandes religions dites chrétiennes, beaucoup arrivent à la conclusion que non, ils n'en ont pas besoin, Jésus a été comme un meurtrier, etc. Pas du tout, mes amis. Nous devons faire la part de choses. Jésus n'a rien à voir avec toutes ces religions, même qui se réclament de lui. Gloire à Dieu. Il est de la plus haute importance que nous comprenions ce message, que l'évangile prêche une personne, que l'évangile, mes amis, tourne autour d'une personne, que l'évangile est fondé sur l'œuvre que cette personne a accomplie à la croix. Et cette personne, c'est Jésus, et Jésus seul. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que ce message est démodé. C'est ainsi que certains prédicateurs, en quête de notoriété, en quête de célébrité, essayent de prêcher un autre évangile. Vous voyez? Essayent de trouver toutes sortes de subterfuges, d'artifices, et recourent même pour certains à des pratiques occultes pour essayer d'attirer les gens vers eux et non pas les conduire à Christ. Que le Seigneur nous garde de toute cette fausse quête de célébrité. Jésus. Prêcher l'évangile, c'est annoncer le ressuscité du troisième jour. Prêcher l'évangile, c'est dire aux gens que Jésus seul est tout suffisant pour les protéger contre les puissances démoniaques. Car beaucoup essaient de se réfugier dans toutes sortes de loges mystiques, dans toutes sortes de confréries occultes, où on leur assure, où on essaye de les persuader qu'en faisant partie de telles loges, en faisant partie de telles confréries mystiques, occultes ou ésotériques, eh bien, ils jouiraient d'une certaine protection. Faux! Le diable est rusé. C'est comme ça qu'il arrive à détruire des vies. Ne jouez pas avec le feu. Quand vous êtes avec Christ, mes amis, vous êtes à l'abri. Vous avez une assurance sûre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne jetez pas la malédiction sur votre postérité, parce que vous courez après je ne sais quelle promotion, parce que vous avez réalisé que votre chef fait partie d'une confrérie mystique, et pour essayer de gagner sa confiance, et ainsi espérer un jour qu'il puisse travailler à votre promotion, vous allez adhérer à ces histoires. Mon frère, ma sœur, fais très attention. Ton âme vaut plus que toute promotion. Ton âme n'a pas de prix. Voyez? Vous risquez de vous retrouver sur une malédiction qui ira au-delà de vos arrière-petits-enfants. Vous savez, il y a des choses qui arrivent, des choses terribles. Je me souviens de cette dame. On m'avait mis en contact avec elle, en Belgique. C'était une veuve. Je suis allé chez elle, d'un certain âge. Elle était avancée en âge. Je suis parti lui parler du Seigneur. Et je me souviens, cette nuit-là, je lui ai parlé du Seigneur. Après, elle m'a raconté sa vie. Vous savez, pour vous dire que, quelquefois, nous nous retrouvons sous une malédiction. Elle m'a dit, pasteur, mon mari est décédé. Bien, j'ai gardé sa dépouille ici à la maison. Ils avaient une maison en étage, et la dépouille, donc, il est décédé, je crois, dans sa chambre, je crois qu'il avait fait une crise cardiaque, et les pompes funèbres sont venues pour le prendre, ils l'ont mis dans un cercueil, dans sa maison, hein. Et il se trouve que le 2 préposé de pompe funèbre qui tenait le cercueil devait prendre le marche. Voyez? Et en descendant, il y en a un qui a raté les marches avec le cercueil sur lui. Hein. Il est tombé, il est mort. Donc cette veuve se retrouve avec deux morts dans sa maison. Elle dit, pasteur, quelle malédiction. Il y a des choses qui arrivent terribles. Alors ne jouez pas avec le feu. Vous ne pouvez pas marcher sur des braises ardentes et ne pas vous brûler. Donc faites attention, mes amis. La bénédiction ne se trouve que dans une personne. La vraie protection, c'est celle que nous avons en Christ. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous devons annoncer cet évangile. Je sais que beaucoup de sociétés mystiques, ésotériques, occultes, mes amis, ont pignon sur rue dans cette ville de Kinshasa. Voyez-vous? Il y en a qui sont très très actifs, ces gens-là. Voyez? Ils essayent d'attirer par tous les moyens. Il y a des entreprises, j'ai appris, j'entends, je parle avec des gens. Voyez? Où toutes les têtes de l'entreprise appartiennent à telle ou telle autre confrérie. Alors, la bonne nouvelle. Toi qui es dans cette entreprise-là, ça n'aie pas peur. Celui qui est en toi, celui qui est avec toi, est plus puissant, mes amis, que ces puissances des ténèbres avec lesquelles tes chefs font commerce. Voyez, ils traficotent avec des puissances destructrices. N'aie pas peur. Oh, dans mon chef, il est ceci, mon chef. Prie pour lui. Quand tu arrives le matin au boulot, va tout droit, regarde-le en face. Dites-lui bonjour. Pendant que tu le salues, eh bien, tu pries pour lui. Tu dis, Seigneur, merci, c'est un malheureux, attire-le à toi. Il pense que comme il est tiré à quatre épingles, il vaut plus que tout le ciel. Pas du tout. Ce n'est qu'un ver de terre. Animé par ton souffle de vie. Et qui a besoin de ta grâce. Alléluia. Oui. Nous devons annoncer cet évangile. Et Philippe est arrivé avec cet évangile. Philippe l'a proclamé, mes amis. Et quelque chose s'est passé dans Samarie. Alléluia. Nous l'avons lu, mes amis. Nous l'avons lu. Quelque chose s'est passé en Samarie. En descendant dans cette ville de la Samarie, eh bien, Philippe n'est pas descendu seul. C'est vrai, humainement parlant, on pouvait voir un seul homme, Philippe, voyez-vous? Mais au-delà de Philippe, il y avait le Seigneur de gloire. Jésus était avec lui, et en descendant dans cette ville-là, eh ben, il a permis au Seigneur de descendre avec lui. Et quand Jésus est arrivé dans cette ville, qui était dominée par des puissances de ténèbres, dans cette ville où sévissait un monsieur, un certain Simon, voyez-vous, qui pratiquait de la magie, qui avait berné les gens, qui manipulait évidemment les gens avec toutes sortes d'actes d'occultisme, de sortilèges. Quand Philippe est arrivé là-bas, il n'a pas essayé, mes amis, de créer quelque chose pour attirer l'attention des gens, pas du tout. La Bible nous dit, il a prêché qui? Alléluia. Il a prêché qui? Il a mis Jésus en contact avec ce peuple-là. Et quand vous mettez Jésus en contact avec les âmes, eh bien, croyez-moi, il finit toujours par démontrer aux gens qu'il est véritablement vivant. Qu'il est réellement vivant. Alléluia. C'est ainsi que cette parole a été prêchée. L'évangile du règne de Dieu. Quand nous prêchons cet évangile, mes amis, nous ouvrons le ciel. Et nous permettons à la puissance libératrice de Dieu de se manifester. C'est ainsi que Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile, car il est une puissance, alléluia, une puissance pour tout celui qui croit. Et aujourd'hui encore, cet évangile n'a pas perdu de sa puissance. Voyez-vous, nous devons l'annoncer, mais dans la plupart des cas, nous ne croyons plus dans la puissance de l'évangile. C'est ainsi que nous essayons de trouver toutes sortes d'artifices pour attirer les gens. Nous n'osons plus aller vers les gens et leur parler du Seigneur. Nous avons peur parce que soit c'est des gens qui sont très cultivés, c'est des gens très intelligents, et alors nous disons, oui, mais il est tellement intelligent celui-là, que je ne pense pas qu'il croirait, ou alors je ne pense pas que j'aurais les mots suffisants pour essayer de l'amener à Jésus. Mon frère, ma sœur, eh bien, ce n'est pas l'éloquence d'un homme. Voyez-vous, ce n'est pas le verbe fut-il raffiné d'un homme qui amène une âme à prendre conscience de son péché. L'œuvre de la conviction du péché appartient au Saint-Esprit. Ce que Jésus te demande, ce que Jésus nous demande, c'est d'aller simplement et de dire aux gens qu'il est vivant. Celui qui prouvera aux gens qu'il est vivant. Nous, on n'a pas besoin de mentir. On n'a pas besoin de créer des histoires pour forcer les gens à croire. En disant, vous savez, moi, je suis né avec un seul pied, et puis quelqu'un a soufflé au nom de Jésus, ma deuxième jambe a poussé. Ça sert à rien. Ça sert à rien de gonfler un témoignage. Dieu t'a guéri d'un rhume. Dis simplement que Dieu m'a guéri d'un rhume. N'essayez pas de gonfler, de surenchérir là-dessus. Oh, vous savez, moi, mon nez là, c'était ceci, il y avait ceci. Et puis un jour au nom de Jésus, et puis j'ai senti de la fumée. J'ai vu la fumée noire sortir de mes narines, et puis j'ai regardé, et puis la fumée a écrit le nom de Jésus. Ça sert à rien de créer cela. Oui. Jésus n'a pas besoin de ça. Philippe a dit simplement aux gens, vous Samaritains, sachez que c'est Jésus qui a été crucifié à Golgotha. C'est Jésus qui est mort. C'est Jésus-là est ressuscité. Il est vivant. C'est de celui dont vous avez besoin. Il a mis ces Samaritains en contact avec Jésus. Eh bien, le résultat, c'est que des âmes ont été sauvées. Alléluia. Les âmes ont été sauvées. Beaucoup ont quitté l'enfer pour faire partie du royaume des cieux. Si une personne n'est pas véritablement réconciliée avec son Créateur par et au travers de Jésus, eh bien cette personne-là est une véritable candidate pour l'enfer. Voyez, la Bible est claire. Ou c'est la lumière, ou c'est... Ou vous êtes au ciel, ou vous êtes où? Il n'y a pas de lieu intermédiaire. Voyez-vous, pas du tout. En disant, oui, mais j'aurai un pied dedans, mais aussi un pied dehors. Voyez, je pourrais voir ce qui se passe en enfer. Voyez, danser avec tout tel ou tel autre musicien. En même temps, chanter avec les anges. Voyez, non, c'est pas comme ça. L'évangile. Il est arrivé. Il a prêché cet évangile. Le seul moyen pour réveiller la conscience de l'homme. C'est le seul moyen qui permet à l'homme de prendre conscience de son état de pécheur, de prendre conscience de la noirceur de son âme, de prendre conscience, mes amis, de son incapacité, même au travers des efforts religieux, de pouvoir se libérer de la pesanteur du mal pour aller rejoindre le Seigneur là où il est. L'évangile est le seul message capable d'illuminer, d'éclairer une intelligence obscurcie par le mal et par le péché. Voilà pourquoi nous devons annoncer cet évangile. Dire au monde que Jésus est vivant, alléluia. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Voyez? Mais hélas, tout ce qui est gratuit dans certains milieux est difficile à passer. Il faut faire quelque chose. C'est pourquoi nous devons faire très attention, même dans nos milieux de Pentecôte, où les gens pensent que parce que je fais ceci, alors Dieu a été dans l'obligation de me donner cela. Attention. Tout ce que nous avons, Dieu nous le donne gratuitement. Même lorsque nous jeûnons et que nous voyons un résultat, eh bien c'est tout simplement parce que nous avons mis du temps pour le chercher au travers du jeûne et de la prière. Et dans son amour, il nous a accordé quelque chose. Car il y a des gens qui jeûnent mieux que nous et qui n'ont jamais reçu de réponse. Voyez? Il a prêché en Samarie. Les gens de cette ville ont reçu Jésus, l'ont accepté, et il y a eu des résultats extraordinaires. Des démoniaques, des gens démonisés ont été libérés. Des paralytiques et des boiteux ont marché, ont été guéris. Et l'auteur, le médecin bien-aimé, Luc, d'ajouter ceci, et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Voyez-vous, mes amis, il ne peut y avoir de véritable joie dans une ville que si cette ville est visitée de plus en plus par le Seigneur. Pourquoi? Eh bien, la Bible nous dit, et le Seigneur lui-même qui le dit, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et quand il y en a deux, la joie est multipliée par deux. Et quand il y en a dix, la joie est multipliée par... Donc vous comprenez que si le ciel est dans la joie, cela va avoir des résultats sur terre. Car tout nous vient du ciel. S'il y a le péché sur terre, eh bien l'enfer manifestera son influence. Mais s'il y a la sainteté, s'il y a la justice, s'il y a des gens qui marchent avec Dieu, eh bien le ciel sera clément. Et les portes, les écluses des cieux seront ouvertes pour répandre sur sa ville, sur la ville, la joie, la vraie joie. Gloire au Seigneur. Il a trouvé la souffrance. Et c'est le point que je voudrais aborder aujourd'hui. Philippe a trouvé la souffrance dans Samarie. Puisque la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui étaient sous l'influence démoniaque. Des gens qui étaient possédés. Des gens qui étaient malades. Des gens des paralytiques, des boiteux. Souffrance physique, souffrance spirituelle. À cause de tout cela, ces gens étaient privés de la véritable joie. Donc Philippe a rencontré la souffrance. Et oui, la souffrance. Quelle terrible réalité pour l'homme fait à l'image de Dieu, pour l'homme fait à la ressemblance du Créateur. La souffrance. Il y a quelque chose de mystérieux dans la souffrance, mes amis. Nous la rencontrons tout autour de nous. Si je pouvais poser la main, demander plutôt à chacun de vous, ou du moins à tous ceux qui souffrent physiquement ce matin, tous ceux qui souffrent moralement ce matin, tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, de lever la main, eh bien je ne serais pas étonné que la quasi-totalité de vous qui êtes là puissiez lever la main. La souffrance est telle que, mes amis, nous la trouvons un peu partout autour de nous. Voyez? Si nous pouvions demander à tous les imprimeurs de la ville de Kinshasa de se mettre ensemble et d'imprimer le plus grand papier qui soit et de mettre en tête de ce papier liste de tous ceux qui souffrent, en mentionnant la nature de la souffrance, morale, physique, financièrement parlant, affectivement parlant, conjugalement parlant, etc. Et qu'on demande à ce que ce papier-là fasse le tour de Kinshasa, en commençant par la borne. Je suis convaincu qu'après la borne, rien qu'au niveau de notre commune d'Engaliema, le papier serait déjà plein. Oui ou non? Tout ça pour dire quoi, mes amis? Que la souffrance est une réalité. Elle est partout, mes amis. Puisqu'elle est partout, puisque les gens ne comprenant pas pourquoi la souffrance, alors que celui qui a fait l'homme est un Dieu d'amour, un Dieu de bienveillance, comment accepte-t-il qu'il y ait la souffrance? Certains ont poussé trop loin cette réflexion et sont arrivés à la conclusion que s'il y a la souffrance, c'est parce que Dieu le permet. Vous avez déjà entendu ce genre de réflexion? Dieu le permet, ou alors, puisqu'il y a la souffrance, et que, d'autre part, la Bible dit que Dieu est amour, comment ce Dieu-là, qui est amour, peut-il accepter, continuer à tolérer la souffrance, voir des filles violées, voir des enfants égorgés, voir des gens, eh bien, souffrir d'une manière ou d'une autre? Et certains sont arrivés à la conclusion que puisqu'il en est ainsi, donc Dieu n'existe pas. Vous avez déjà entendu ce genre de réflexion et ce genre d'arguments ayant conduit certains à rejeter Dieu pour se tourner vers l'athéisme. Mais la question que nous devrions savoir est celle-ci, est sommes-nous vraiment sûrs que ce Dieu qui permet toutes ces souffrances, Voilà la grande question. La souffrance que tu connais, physique, spirituelle ou autre, es-tu vraiment sûr que c'est Dieu qui la permet? Voyez? Voilà une question à laquelle nous devrions répondre. Nous poser cette question est tout à fait légitime. Car beaucoup ont jeté la responsabilité sur Dieu, alors que Dieu n'avait rien à voir avec la souffrance qui rongeait leur vie, la souffrance contre laquelle ils se battaient. On a perdu un être cher, on jette la responsabilité sur Dieu. Où étais-tu? Pourquoi n'as-tu pas fait ceci? On est malade? Eh bien, on jette la responsabilité sur Dieu. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as permis? On entend souvent les gens utiliser le verbe permettre. Je voudrais, frères et sœurs, que nous fassions très attention par rapport à l'usage de ce terme-là. Pourquoi tu permets ceci? Oui, oui. Il y a un récit dans la parole de Dieu, ces déclarations du Seigneur dans Jean 9, à propos de cet homme aveugle de naissance. Cet homme passé, les disciples du Seigneur voient cet homme et ils posent la question au Seigneur, le 3 premier verset. Ils lui disent ceci, « Seigneur, maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Voyez, qui a péché? Est-ce lui? Mais comment aurait-il péché alors qu'il était dans le sein de sa mère, pour que ce péché soit la base de son état de cécité? Et si ce sont ses parents, ben, quel péché, etc. Ils voulaient comprendre. Et le Seigneur leur répondit en disant, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Mais nous devons faire attention de ne jamais prendre ces textes pour imputer à Dieu la responsabilité de toute souffrance, de toute calamité, de tout problème qu'il y a parmi nous, au milieu de nous. La Bible déclare que chacun récolte toujours ce qu'il a semé. Oui ou non? Chacun récolte toujours, premièrement. Nous récoltons ce que nous avons semé. Mais il arrive aussi, hélas, que nous récoltions ce que les autres ont semé. Parce que l'humanité est une. Dans ce cas-là, nous devenons des victimes collatérales. Voyez? Nous devenons des victimes collatérales des mauvais choix faits par les uns, des mauvaises décisions prises par les autres. Et nous en subissons les conséquences. Vous êtes dans un véhicule. Votre conducteur a passé toute la nuit à boire. Il s'est réveillé avec un verre de lotuku, ou je ne sais de quelle boisson alcoolisée. Il prend le volant, il ne se contrôle pas. Voyez? Vous allez tout droit dans un arbre. Vous vous retrouvez dans le coma. Oh Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Nous devons faire très attention. Quelquefois nous sommes naïfs ici. Nous n'osons pas dire la vérité aux gens. C'est comme ça que certains sont allés au devant de la mort. On t'invite, viens. Parce que c'est ta cousine, viens. La cousine là est... Elle a déjà bu, viens, viens, je vais te déposer. Et tu acceptes? Ah non, c'est ma cousine, parce que si je refuse, ça pourrait mal tourner, elle est compliquée. Et tu montes, et la cousine prend le volant, pendant qu'elle conduit, d'abord elle a déjà pris un verre de whisky, ou plusieurs, et pendant qu'elle conduit, le GSM sonne, c'est son maître, ou son macango, enfin comment on l'appelle, son amant. Allô chérie, allô, oui mais, sur nos routes, où les gens conduisent au mépris du code de la route, si vous êtes, mes amis, irresponsables à ce point-là, vous risquez de vous retrouver derrière une voiture. Vous rentrez dans la voiture, vous n'aviez pas mis de ceinture, votre tête percute le tableau de bord, votre nez est arraché, Seigneur, c'est ce qui faisait ma beauté, maintenant je n'en ai plus. Pourquoi tu as fait ça, non? Nous devons utiliser notre intelligence. Nous devons savoir dire non. Et souvent, les gens ici ont des scrupules. Ouais. Il n'ose pas dire non, alors retourne en Rome, vous savez. Non. Et c'est comme ça que certains se sont retrouvés dans des situations et ont fini par le payer très cher. Parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de dire non. Viens, il dit non, 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 je ne viens pas. Moi, j'attends le taxi. L'état dans lequel tu es là, d'ailleurs, je te conseillerais de laisser la voiture. Viens prendre le taxi avec nous. Oui. Plutôt que de consentir et d'aller. Et puis un jour, voyez. Donc, il y a des choses qui arrivent et qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous avez suivi il y a quelques jours d'ici, peut-être quelques semaines, ce qui est arrivé sur le campus d'une université aux États-Unis, où quelqu'un a tiré sur 9 étudiants. Il les a massacrés, il est mort, enfin, ils sont tous morts. 9 familles se sont retrouvées dans la souffrance, oui ou non? Et vous allez dire que Dieu a permis cela? Non. Ces neuf personnes qui ont été abattues de sang-froid ont été des victimes de ces fous-là, de cet homme-là, oui ou non? Des victimes directes. Mais les 9 ont aussi été des victimes collatérales de la politique américaine très laxiste en matière de possession et de circulation des armes à feu. Voyez. Parce que c'est dans leur amendement, eh bien, ils ne peuvent pas bouger. Donc, ces 9-là ont été des victimes collatérales. Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a pas permis cela. Si vous pensez qu'il en est ainsi, alors vous péchez, mon ami. C'est comme si, à cause des accidents qu'il y a sur nos routes accidentogènes, c'est comme si, à cause de gens qui roulent sur nos routes, au mépris du code de la route, eh bien, vous iriez voir le ministre des Transports, là au conseil, à l'hôtel du conseil, pour lui dire, mais pourquoi il permet qu'il y ait des accidents à Kinshasa? Si vous alliez le voir avec ça, croyez-moi, le cher ministre s'offusquerait. Il vous dirait qu'il n'a rien à voir, et il pointerait du doigt le respect du code de la route. Et il vous dirait qu'à chaque fois que les gens enfreignent la loi, à chaque fois que les gens vont à l'encontre du code de la route, eh bien c'est normal qu'il y ait des accidents et que ces accidents entraînent la souffrance. Quelquefois, les gens réagissent. Ils jettent la faute partout. Ils essaient de trouver des boucs émissaires partout, pas du tout. Chacun récolte ce qu'il a semé. C'est comme cette histoire, je ne sais pas si je voulais raconter, je l'ai lu dans un journal, concernant un détenu américain en Californie ou je ne sais pas, quelque part, dans un des États américains. Ces détenus, ces prisonniers, est arrivé un jour à s'enfuir. Mais c'était en hiver. Il avait beaucoup neigé les jours avant. Alors, il a profité pour s'échapper. Mais comme il s'est échappé sans manteau, il s'est échappé, il avait je ne sais pas quoi, des sandales, je ne sais pas quel genre de chaussures les gens mettent, mais en tout cas, il n'était pas préparé à affronter le froid glacial de l'hiver et même à marcher dans la neige. Alors, résultat, en marchant dans la neige, eh bien, il a fini par être recueilli, mais quand ils l'ont recueilli, quand ils l'ont rattrapé, cet homme venait de perdre l'usage de ses orteils, à cause du froid, évidemment. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Comme les États-Unis sont le paradis des avocats, il a pris un bon avocat qui a porté plainte contre l'État, en disant que voilà, et celui qui se plaint, il dit non, j'ai perdu l'usage de mes orteils parce qu'on ne m'avait pas récupéré à temps. Donc, par conséquent, l'État est responsable. Ben, cela reviendrait à une jeune fille qui aurait eu un rapport sexuel avec un partenaire rencontré un soir, qui lui aurait filé le virus, et qui rendrait responsable notre ministre de la Santé. Ah oui, ça revient au même, non? Vous êtes ministre de la Santé, comment expliquer que je suis malade? Donc, vous voyez, mes amis, nous devons faire très attention. Chacun récolte ce qu'il a. C'est ça. Beaucoup de pays aujourd'hui croupissent sous le poids de la dette. Voyez. Beaucoup de pays ont des problèmes parce que certaines de leurs dettes ont été rachetées par des fonds d'investissement qu'on appelle les fonds vautours. Voyez. Alors, dans ce milieu-là de la finance, et à cause de ces fonds vautours ou de ces fonds charognards, appelez-le comme vous voulez, il y a beaucoup de pays qui souffrent. Et beaucoup de pays sont dans des difficultés pour rembourser cette dette avec beaucoup d'intérêts. Si c'est la dette qui a duré 20 ans, on calcule les intérêts sur 20 ans. Eh oui. Eh oui, il se passe beaucoup de choses dans le milieu de la finance internationale où sévissent toutes sortes de charognards, de vautours. Ouais. Vous trouvez des bandes d'escrocs financiers. Des bandes de caïmans. Voyez-vous? Rongés par la cupidité, qui se sont taillés la part du lion. Et qui continuent à se tailler la part du lion, ne laissant que des miettes aux pays sous-développés. Nous, là, nous contentons des miettes. Vous voyez, quelquefois, les gens s'insurgent contre leur gouvernement. Vous ne pouvez pas vous imaginer les pressions qui viennent de l'extérieur. La plupart de toutes ces institutions sont dirigées par des gens gangrénés par la cupidité. Voyez? C'est la cupidité qui a été à la base de la crise financière de 2008, qui continue encore à exercer, hélas, ses conséquences sur beaucoup, beaucoup de pays. Voyez donc la misère, la pauvreté ne devrait pas être imputé à Dieu. Ah, pourquoi les gens meurent de faim? Mais il y a l'injustice. Les gens ne veulent pas travailler. Voyez? Quand je dis travailler, pas seulement être fonctionnaire quelque part. On peut aller travailler les champs, etc. Donc, mes amis, l'homme souffre. Nous souffrons, de manière générale, avant de terminer, parce que nous avons choisi d'ignorer le Créateur en ignorant son livre. Car le livre, son livre que la Bible, est notre code de vie. Alléluia. Si nous ne vivons pas selon ce code, nous allons au-devant des problèmes. Et c'est ce qui arrive. Les nations tournent le dos à la Bible. Beaucoup la combattent aujourd'hui. Voyez-vous, les hommes ne veulent plus de la Bible. Et résultat, ils ne savent plus le mode d'emploi de l'existence humaine. Quand vous achetez un nouvel appareil, une nouvelle console de jeu, une machine à laver ou que sais-je, eh bien, vous allez vous contenter dans un premier temps de lire le manuel d'usage prévu par le constructeur, oui ou non? La voiture, c'est la même chose. Vous n'allez pas commencer à deviner, vous mettez tout à la fois, vous risquez de tout bloquer. Oui? Je connais le témoignage, vous savez, il y a des véhicules hybrides qui roulent à la fois au carburant, le diesel ou l'essence, mais aussi au gaz LPG, qu'on ne trouve pas ici. Il n'y a pas de gaz LPG, il n'y a pas de pompe qui vous fournit le LPG. Voyez. Donc, alors, il y a des systèmes. Si vous le bougez, sans le savoir, vous mettez le moteur sur le gaz. Mais comme le réservoir de gaz est vide, donc le moteur bloque, ne tourne pas. Vous commencez à chipoter des carburateurs. Mais il lui fallut simplement lire. Et vous aurez compris que ce bouton-là, c'est pour passer en mode gaz. Vous l'avez parce que vous bricolez. Ça, c'est ça l'esprit de bricolage. On ne sait que quand ça passe, on passe, c'est bon. Et après, et certains mécaniciens le savent, vous l'amenez, il fait semblant, il dit ah. Oh là là, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, le système électronique, là, il faut que je commande, mais j'en ai en réserve. Quand il vous donne la facture 1500, alors que c'était simplement le bouton que vous avez bougé sans le savoir. Et souvent, nous essayons de vivre, mes amis, sans tenir compte du livre de Dieu, celui qui nous montre la manière, la façon de vivre. Alléluia. Alors, n'imputons pas la responsabilité de la souffrance à Dieu. Les gens souffrent parce qu'ils ont fait des choix. Voyez-vous, mais ce qui est extraordinaire, la bonne nouvelle, c'est que malgré tout cela, il reste un Dieu d'amour. Avec nos échecs, avec les conséquences de nos choix, nous pouvons venir et trouver auprès de lui du réconfort et nous attendre à ce qu'il nous aide. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Alors, prêchez cet évangile. Alléluia. Le monde suffoque après l'évangile de Jésus-Christ. Voyez-vous? Prêchons-le, annonçons-le dans la puissance du Saint-Esprit. Attirons les âmes à lui. Commençons par notre maison, nos enfants, nos parents, nos grands-parents. Ne les laissons pas comme ça en disant « oui, mais lui, c'est comme ça » ou « elle, c'est la tradition », pas du tout. Là-bas au ciel, il n'y a pas de traditionnalistes. Il n'y a que de ceux qui sont sauvés en Christ. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, tendre Père, pour la grâce que nous avons eue, du moins pour beaucoup d'entre nous, d'avoir entendu ce message de l'Évangile et d'y avoir répondu favorablement. Aide-nous à proclamer à notre tour ce message, afin que le monde entier, Seigneur, sache que toi, Jésus, tu n'as pas changé, tu es encore le même aujourd'hui, et que tu tends tes mains pour sauver l'humanité. Sauve, Seigneur, ceux qui sont esclaves de la religion, ceux qui cherchent le salut dans la pratique religieuse, ceux qui essayent, ô Dieu, de trouver la protection dans toutes sortes, Seigneur, de croyances ésotériques, dans toutes sortes de pratiques occultes. Ô Dieu, sauve-les, car la vraie protection se trouve en toi. Ce n'est qu'en toi que nous sommes à l'abri de la suie du monde, du venin de Satan et de toutes sortes d'œuvres mortes. Merci, Maître. Bénis également ce service consacré aux offrandes et aux dîmes. Là aussi, nous voulons te faire confiance et te remercier pour la grâce de pouvoir contribuer à l'avancement de ton règne, Seigneur, à l'avancement de ton royaume, mais aussi à l'épanouissement de ton œuvre ici à la borne. Bénis chacun de nous, alors que nous nous apprêtons à te donner ce que nous avons préparé. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de nouveau.